c'est l'heure des enjeux internationaux. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Baptiste, bonjour à tous.
Ce matin, Julie, les raisons des difficultés de l'armée russe en Ukraine.
Oui, comment l'armée ukrainienne a-t-elle repris l'initiative? Nous demandions-nous hier comment l'armée russe l'a-t-elle perdue? C'est la question que nous posons ce matin. Les forces de Moscou ont riposté hier, avant-hier, à la contre-offensive des troupes de Kiev. Des frappes aériennes, balistiques et des tirs, par exemple sur la ville natale du président Volodymyr Zelensky à Kryvyi Rih. 600 000 habitants dans le centre de l'Ukraine où, d'après Kiev, des infrastructures hydrauliques ont été endommagées, ce qui fait craindre des inondations. Bonjour Julien Théron.
Bonjour Julie Gacon.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes politiste, docteur en philosophie, enseignant à Sciences Po Paris, et votre livre « Poutine, la stratégie du désordre » écrit avec Isabelle Mandreau vient d'être republié en version actualisée et augmentée jusqu'au titre « Stratégie du désordre jusqu'à la guerre » aux éditions Talendier. Alors Julien Théron, si on devait faire un instantané des difficultés des troupes russes ce matin, lesquelles sont les plus préjudiciables au sens des intérêts russes?
Alors je crois qu'au début, il y a un problème de doctrine en fait. Depuis 8 ans, entre 2014, on se souvient des ingérences de la Russie en Crimée et dans le Donbass, on a beaucoup théorisé sur le fait que la Russie essaie de trouver des moyens innovants de guerre contemporaine qui déroutaient en fait la guerre conventionnelle en ne mettant pas les écussons, en utilisant des forces non conventionnelles, ce qu'on appelle des proxys, c'est-à-dire des forces locales, du renseignement, des cyberattaques, enfin en gros tout ce qui n'est pas la guerre mais qui est utilisé comme un armement, une weaponization, on dit en anglais, pour traduire ça en fait en termes de conflit. Et on a oublié qu'en fait, la guerre, la vraie guerre, la guerre conventionnelle existe aussi. On l'a oublié et même là où on l'a oublié, peut-être, c'est dans les forces armées russes, puisque le déploiement militaire russe, en fait, n'avait pas nécessairement pour vocation à combattre l'armée ukrainienne. Il avait surtout pour vocation à impressionner les Ukrainiens.
C'est quoi? C'était psychologique?
Oui, c'est une arme, absolument. C'est ce qu'on appelle une opération psychologique. C'est-à-dire que Moscou a déployé son armée dans l'intention de faire tellement peur aux Ukrainiens, ce qui s'était d'ailleurs passé un peu en Crimée. C'est l'idée de dire ça n'est pas nous, mais c'est sûrement quand même nous. Donc ils avaient impressionné les Ukrainiens, ça avait marché en Crimée, et là le déploiement massif avait pour but de provoquer un changement de régime à Kiev. On se souvient, Vladimir Poutine lui-même avait appelé à un changement de régime, un coup d'état même, des militaires ukrainiens pro-russes naturellement, et finalement ça n'avait pas eu lieu. Donc l'armée russe s'est retrouvée à faire la guerre là où elle n'était pas du tout prête à faire la guerre. Donc le problème, c'est un problème de doctrine, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés avec une inadaptation face à des troupes quand même armée et renseignée par l'OTAN, par des troupes de l'OTAN, et fondamentalement, ils se retrouvent avec des vieilles doctrines. On le voit.
Budapest, Prague, c'était ça aussi.
Absolument, la force des tanks en fait, et puis aussi donc en termes opérationnels, on s'est retrouvé avec des opérations qui en fait ont été conçues par l'état-major soviétique à l'origine dans les années 30, c'est-à-dire ces grandes pénétrations. Hein, vous vous souvenez, ces colonnes de tanks, on les a vues aller vers Kiev, on les a vues aussi dans le Donbass, essayer de encercler toujours les troupes. C'est des opérations qui sont très connues même des Ukrainiens, puisqu'on a tendance à assimiler les Russes aux Soviétiques, mais les Ukrainiens aussi étaient Soviétiques, ils connaissent tout ça.
Et est-ce qu'on a une idée de quelles troupes, parmi tous les hommes qui ont été envoyés sur le front côté russe, que ce soit l'armée régulière, les unités des républiques séparatistes ou même Wagner, quelles troupes aujourd'hui rencontrent le plus de difficultés, à moins qu'ils ne soient tous logés à la même enseigne?
Alors en réalité, ça a été un peu la débandade pour tout le monde, mais il y en a qui s'en sont mieux tirés que les autres, et sont notamment les troupes d'élite. Alors les troupes d'élite, c'est les forces spéciales, c'est les troupes aéroportées notamment, c'est les Wagner. Alors vous allez me dire, oui, mais Wagner c'est une société militaire privée, mais en réalité, ils sont quand même dans le giron des forces spéciales russes et du renseignement militaire russe. Et puis même ces forces locales, les affidés de Moscou localement, tous s'en sont plutôt bien tirés, et on sent derrière tout ça, en réalité, une espèce de mépris de la part du Kremlin et de Vladimir Poutine spécialement vis-à-vis de l'inefficacité de l'armée conventionnelle russe. C'est-à-dire que ceux qui ont pris le gros du choc de la contre-offensive ukrainienne, surtout aux alentours de Kharkiv, mais aussi vers Kherson, c'est surtout les troupes normales, j'ai envie de dire. Et là, il y a un peu la vengeance de l'agent de renseignement vers une armée qu'il juge inefficace.
Et on commence à comprendre petit à petit aussi que ce sont les mieux formés qui sont partis vers Kherson quand la contre-offensive russe de la la fin août, la contre-offensive ukrainienne a commencé fin août dans le sud-est, donc ils sont allés là-bas et ce sont donc eux qui sont partis en premier, laissant les moins expérimentés dans le nord-est. Alors on a parlé de manque de matériel de l'armée russe face à une armée ukrainienne par ailleurs armée par les pays de l'OTAN, on va y revenir, mais pour expliquer l'échec des Russes à contenir cette contre-offensive ukrainienne, on ne peut pas ne pas évoquer le renseignement. Julien Théron, comment les Russes ont-ils fait pour ne pas voir arriver 5 brigades blindées mécanisées ukrainiennes tout près du front?
Alors en réalité, il y a deux raisons. Il y a une raison positive et une négative. La raison positive, c'est le fait que le renseignement américain a beaucoup aidé quand même l'Ukraine.
Côté
et
ukrainien.
Ça, il faut le dire, c'est quand même un atout considérable, à la fois dans l'apport de renseignements sur la Russie, mais aussi dans ce qu'on appelle la déception en anglais, c'est-à-dire la ruse, si vous voulez, d'une certaine manière. Et puis l'autre raison, c'est aussi qu'il y a des conflits internes au monde du renseignement russe. On l'avait vu déjà au moment de l'invasion, avec la 5e direction générale du FSB, qui est chargée de renseigner sur ce qui se passerait s'il y avait une invasion de l'Ukraine, et le renseignement militaire russe. Et en réalité, il y a des espèces de combats internes, renseignement extérieur, FSB, GRU, donc renseignement militaire, qui rend la chose assez inefficace. C'est assez classique des régimes autocratiques, en réalité. On essaye toujours à la fois de jouer des coudes pour monter et de faire plaisir au leader et lui dire ce qu'il a envie d'entendre.
Et dès le début de la guerre, d'ailleurs, des humiliations de la part de Vladimir Poutine vis-à-vis de ce renseignement extérieur, le SVR.
Absolument, on se souviendra de l'humiliation de Sergueï Narychkine, le patron du SVR, l'humiliation publique, dans une réunion d'ailleurs qui était censée être en direct, mais on avait noté que les montres n'étaient peut-être pas en direct, et ça nous instruit sur une chose, c'est-à-dire qu'il y avait une vraie volonté de la part de Vladimir Poutine de s'imposer comme vraiment le maître qui était capable d'humilier ses premiers lieutenants, en réalité, parce que vous imaginez bien que le chef du renseignement extérieur de la Russie, de la Fédération de Russie, c'est quand même pas rien comme poste, mais lui vient du FSB et là, c'est un autre personnage, Bornikov, qui était aux commandes, et donc il y a une guerre interne, et c'est peut-être là que c'est décalé le front, en fait. Il y a le front, si vous voulez, au sens de la guerre conventionnelle, et il y a le front au sens de ce qui va se passer dans la guerre, et ce front-là, il est beaucoup à Moscou, aujourd'hui, au sein même des arcanes du pouvoir.
Alors, qu'est-ce que la réforme dans l'armée, il y a une quinzaine d'années, en 2008, après la guerre de Tchétchénie, mais c'était l'année de la guerre éclair avec la Géorgie, qu'est-ce que cette réforme avait entrepris, et qui n'a manifestement pas suffi, parce qu'on avait mis des moyens, on avait mis de l'argent, on avait dit la Russie va produire des armes par ailleurs, beaucoup plus.
Après les deux guerres de Tchétchénie, effectivement, la guerre contre la Géorgie en 2008 a révélé un certain nombre de failles dans l'armée russe, et tout un tas de mesures ont été prises pour améliorer l'aspect capacitaire, l'armement, l'organisation, le comportement des soldats. Il y a des choses qui ont très bien marché, par exemple la lutte contre l'alcoolisme, et puis dernièrement, Moscou a réintroduit un commissariat politique pour être sûr que les soldats aient bien les bonnes idées politiques nationalistes et poutiniennes. Il y a tout un tas de choses qui ont été faites. En réalité, il y a eu, en termes d'entraînement, en termes de développement technologique, des choses assez efficaces, mais ça n'a pas été non plus une révolution considérable par la nature même du régime. Et la corruption en Russie au sein du régime, y compris au sein de l'armée, empêche énormément l'efficacité de l'armée.
Par exemple, il y a des armes qui disparaissent.
Des équipements. Et ça joue énormément sur le comportement général de l'armée. Alors il y a d'autres problèmes, on en parlait tout à l'heure. Il y a le problème de la communication au sein de l'armée, notamment entre la base et l'état-major, ce qui joue à la fois sur le moral des troupes et sur même le déroulement des batailles. Si vous n'avez pas le soutien, l'appui-feu, comme on dit, le soutien aérien ou d'artillerie. Si vous voulez, il y a tout un tas de questions internes qui jouent vraiment sur l'efficacité des armées locales.
Des tanks T-14, par exemple, fabriqués en Russie, on en voit en Ukraine?
Alors, vous savez que le Kremlin adore expliquer que, vraiment, en termes de développement technologique, ils sont intouchables et qu'ils ont des armes absolument considérables. Alors, il ne faut pas, notre erreur serait aussi de sous-estimer maintenant l'armée russe.
On ne dit pas du tout qu'ils ont perdu, d'ailleurs. C'est pas le propos.
Mais effectivement, en général, ils poussent leur avantage de manière politique, en réalité dans un but interne en Russie, et la réalité est assez limitée. Vous citez les T-14 par exemple, c'est un excellent exemple. Les T-14, ça fait un paquet d'années qu'on les attend, et on en a vu un au 9 mai défilé sur la place rouge, et en réalité les meilleurs des tanks qu'on voit en Ukraine sont des T90 qui se font d'ailleurs taper régulièrement par des missiles anti-tanks qui sont bien moins chers qu'un T90, y compris par les forces de défense territoriale qui sont en réalité des civils dans l'armée.
Ukrainiens, leurs drones, on commence à en récupérer, là les Ukrainiens en récupèrent, ça donne quoi les drones russes?
Eh bien, c'est un des points faibles de l'armée russe, alors que c'est un des éléments cruciaux, comme on l'a vu avec les drones turcs Bayraktar en Ukraine. Donc la Russie n'a pas ces technologies. Elle essaye d'ailleurs d'en acheter dernièrement auprès des Iraniens.
Des Iraniens, ils achètent leurs missiles auprès de la Corée du Nord.
Ils achètent des munitions effectivement auprès de la Corée du Nord. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il y a aussi un problème d'approvisionnement en munitions. Il y a eu aussi des problèmes en termes d'artillerie hein, sur les différents formats. On a remplacé des pièces d'artillerie parce qu'on avait besoin de différentes munitions. Donc vous voyez qu'il y a tout un tas de problèmes qui se déclenchent. Mais le problème principal, c'est quand même les hommes.
Ouais.
Qui sont les hommes et où? D'où peuvent venir les hommes maintenant pour aller combattre en Ukraine quand personne ne veut y aller?
Le Kremlin, il ne peut pas décréter la mobilisation générale en Russie. Obliger les hommes en âge de combattre à partir au front, c'est quelque chose qui, constitutionnellement ou légalement, serait possible. Mais est-ce que c'est faisable?
Légalement, c'est possible. Politiquement, c'est infaisable. On a beaucoup glosé de ce qui se passerait au Bélarus, en fait. Si le Bélarus décidait, comme il montre de temps en temps les dents, hein, sous l'impulsion du Kremlin, à l'encontre de l'Ukraine, parce qu'en fait, la guerre se joue vraiment sur les trois pays, hein. Il y a même des sabotages au Bélarus. Et le Bélarus le sait très bien, Loukachenko le sait très bien. Il est probable que les citoyens du Bélarus désertent immédiatement en cas de guerre. Il est fort probable aujourd'hui, précisément au regard des défaites militaires, qu'il se passerait probablement la même chose en Russie. Et ça, on le sait très bien au Kremlin, et Vladimir Poutine le sait. Non seulement ce serait une mesure très impopulaire, mais ça révélerait peut-être tout le manque réel de motivation des jeunes Russes d'aller combattre. Il y a une fracture générationnelle en Russie vis-à-vis de cette guerre, et les plus jeunes ne sont pas du tout motivés si on accepte les franges ultranationalistes.
Et donc, en attendant, on fait quoi? Alors, on demande par exemple aux conscrits de rester un petit peu plus longtemps. Il y a eu des vagues de recrutement quand même, mais elles sont régulières. C'est pas la guerre en Ukraine qui les a provoquées.
Absolument.
La dernière, c'était au printemps.
Voilà.
Qu'est-ce que ça a donné?
Alors, il y a des recrutements, effectivement, à peu près tous les 6 mois en Russie. La dernière, c'était début avril. On pense qu'ils entraînaient environ 15 000 personnes, ce qui ne suffit absolument pas à remplacer les dizaines de milliers de personnes, de soldats, qui ont été mis hors jeu, soit parce qu'ils sont décédés, soit tués, soit parce qu'ils ont été blessés, prisonniers, parce qu'ils ont fui, et qu'ils ont désorganisé en plus les unités localement. Donc, et puis en plus, si vous voulez, entre avril et septembre, vous ne formez pas des soldats prêts à faire la guerre du tout. Donc, ça ne suffit pas. Donc, on va chercher là où on peut. Alors, les réservistes, on avait aussi surestimé complètement la réserve militaire russe, qui n'a rien à voir avec une réserve opérationnelle. Donc, on va chercher un petit peu des Wagner, on va chercher des mercenaires en Syrie, notamment.
Qu'est-ce que ça a donné, d'ailleurs, le recrutement qui avait été fait, des appels complètement, des petites annonces hein, sur les réseaux sociaux, venez vous battre en Syrie? Ça a donné quoi?
Absolument, avec des salaires assez alléchants pour des Syriens. Mais la réalité, en fait, c'est que la Russie a été assez en retard avec le fait de travailler avec des locaux, des milices locales, contrairement aux Iraniens. Donc, en fait, ils ont assez peu d'alliés locaux. Et surtout, ils en ont besoin. C'est-à-dire que si vous prenez les combattants de Syrie pour les amener en Ukraine, après, vous ne les avez plus en Syrie. Et d'ailleurs, la Russie fait la même chose avec des missiles S-300 qu'ils utilisent déjà à la place, parfois, de missiles Iskander parce qu'ils ont moins de missiles. Donc, en fait, ils sont en train de décaler, si vous voulez, leurs capacités. Et ils sont en train de réduire complètement la voilure en fait internationale. On se pose même la question, on en parlait, du Nagorno-Karabakh, avec des attaques récentes cette semaine de l'Azerbaïdjan et l'Arménie qui questionne un peu la capacité russe à protéger, parce qu'il y a des accords de défense entre les deux États. Donc on s'aperçoit qu'en fait, militairement, la Russie est quand même une puissance réelle, mais que le colosse qu'on pensait a un peu les pieds d'argile.
Voilà, vous avez parlé du Haut-Karabakh, c'était dans la nuit de lundi à mardi, l'Azerbaïdjan a bombardé certaines localités arméniennes. Et en effet, comme la Russie est une force d'interposition dans le Haut-Karabakh, on s'est dit, mais où sont les soldats russes? Et vraisemblablement, beaucoup étaient partis en Ukraine en renfort. Julien Théron, pour conclure, qu'est-ce qu'on peut imaginer de la stratégie russe aujourd'hui, à l'heure qu'il est, ne serait-ce que pour maintenir les territoires remportés, à moins qu'ils essayent déjà, est-ce qu'on le sait, de reconquérir les territoires que l'Ukraine leur a repris? Avec quelle force? Enfin, quelle force ont-ils encore? Parce qu'elle n'est pas non plus l'ombre d'elle-même, cette armée.
Absolument. Ils ont d'ailleurs, quand il y a eu l'annonce d'attaque dans la province du sud de Kherson, les Russes ont essayé de prendre l'avantage avant et d'attaquer. L'attaque a été repoussée par les forces ukrainiennes, mais en août, déjà, ils ont déjà essayé de prendre l'initiative, si vous voulez. Donc, effectivement, ils ont encore un petit peu de ressources. Là, ils se sont regroupés, comme ils disent. Alors, évidemment, bon, ça n'empêche pas la débâcle, mais il y a eu un vrai regroupement. Et on sait que des forces qui sont regroupées, notamment dans le Donbass, qui est un front quand même assez solide des deux côtés, ça peut leur permettre de résister. résister. Donc on peut imaginer une sorte de contre-offensive, mais en réalité, la réaction à l'offensive ukrainienne a été vraiment des bombardements de la ligne de front, des bombardements de missiles sur Kharkiv pour essayer de taper les infrastructures électriques et d'eau potable, donc des choses qui sont complètement, d'ailleurs, interdites par droit international humanitaire parce que ça touche les civils, mais... ils n'ont pas pu déclencher de contre-offensive absolument massive ou ce genre de choses. Ce qu'on sait actuellement de la réaction du Kremlin, c'est quand même un certain attentisme avec une espèce de croyance un peu erratique sur le fait que ça peut s'améliorer, mais c'est quand même pas, ça ne sent pas très bon quand même du point de vue militaire pour la Russie aujourd'hui.
Voilà, on continuera à suivre cela bien sûr semaine après semaine. Merci beaucoup Julien Théron d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle le titre de votre livre coécrit avec Isabelle Mandreau et qui a réapparu dans une version actualisée augmentée, Vladimir Poutine. Poutine, la stratégie du désordre jusqu'à la guerre, aux éditions Talendier. Merci beaucoup.
Merci, les enjeux. Eh bien, c'est fini pour aujourd'hui. Mais bonne nouvelle, il y aura des enjeux territoriaux demain à 6h10 et vos enjeux internationaux, Julie Gacon, à 6h40.
France Culture. L'esprit d'ouverture.